sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Aujourd'hui, nous sommes avec Roberte Framboise et Anatole. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Évidemment, j'ai à mes côtés ma fameuse Elsa pour m'accompagner dans cette folle aventure.
Bonjour à tous.
Allez, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, Anatole et Roberte Framboise?
Alors, je suis artiste qui est sortie des Beaux-Arts il y a 2 ans, à peu près, 1 an et demi, on va dire. Et donc, je fais de l'art contemporain et je questionne les mécanismes de domination et les impacts sur les personnes qui les subissent et aussi sur le vivant. Et voilà, tout ce genre de choses. Mon travail est assez politique et j'utilise beaucoup de matériaux de récupération, mais qui ont un sens avec le sujet que j'aborde.
Super, merci. Et toi, Robert Framboise?
Alors moi, je ne me considère pas forcément comme une artiste à proprement parler. J'ai un peu le syndrome de l'impostrice. Moi, je fais du collage dans la rue avec généralement des dessins très mignons, mais des messages un peu plus cash contre le patriarcat, la police, la chasse ou des trucs de l'actualité qui ne m'ont pas trop plu. Voilà.
Donc très politique aussi.
Tout à fait, parce que bon, c'est vrai. Alors pour moi, l'art, il faut quand même qu'il y ait un petit message. Bon, ça peut être de la déco, mais s'il y a un petit message avec, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. C'est clair. Et avant d'arriver à cet art politisé, si on peut dire, en tout cas engagé quelque part, avec un message hyper important, etc. Si vous remontez à la source et vous remontez le courant et que vous remontez le fil de vos vies respectivement, à quel moment la création vient vous chercher et entre dans vos vies? À quel moment vous avez un éveil à la création?
Moi, je pense que depuis toute petite, j'ai toujours fait un peu de dessin, des choses comme ça. Et moi, c'est vraiment au confinement que j'ai commencé à coller des choses dans ma rue parce que je m'ennuyais et les messages ont été de plus en plus critiques, va-t-on dire comme ça.
T'as commencé soft et t'es allé.
Voilà, c'est ça.
Je me suis dit, ah, mais c'est beau le contraste aussi entre un truc tout doux et un bon message bien énervé.
C'est ça, mais le mec de la mairie, là, en ce moment, il est nouveau, il m'aime pas trop. Il vient souvent avec son petit Karcher.
Faudrait que tu lui dessines un Karcher.
Non, mais les messages contre la police, ça le dérangeait pas. Par contre, dès qu'il y a des femmes, je pense que c'est un mascu sur les bords, ce monsieur de la mairie.
D'accord. Bon, t'as déjà gagné la moitié du combat avec lui. Faut que j'y gagne l'autre. Ok, et du coup, voilà, c'est assez récent finalement. Ça fait 5 ans que...
Tout à fait. Et après, de temps en temps, je colle avec d'autres artistes. On se fait des petites sessions collage et c'est sympa. On a tous un petit peu notre univers. C'est sympa de voir d'autres gens qui collent.
Carrément. Et toi, Anatole, quand est-ce que ça vient t'attraper, la création?
Bah, je pense pareil depuis que je suis enfant, parce que quand on est enfant, on nous met directement avec du papier et de quoi dessiner. Et puis, et donc c'est là que j'ai trouvé que moi, ça me plaisait vachement. Et je me rappelle que même au collège, je dessinais des... Pour les gens de mon école, je leur passais des coloriages de Pokémon ou alors des Diddle ou je sais pas quoi que je dessinais moi-même. Et ça a continué comme ça. J'ai dessiné tout le temps. Et puis, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des cours. Et avant, je voulais pas en faire des cours parce que je me disais, moi, je sais dessiner sans faire des cours. Et c'était un peu bête de penser comme ça parce qu'au final, en 1 an ou 2 ans de cours, j'ai progressé tellement. Et c'est là que je suis passée à d'autres médiums, enfin à la peinture ou au pastel, l'aquarelle et tout ça, alors qu'avant j'étais que sur crayon, stylo. Et du coup, je suis partie en prépa, c'est un peu ce qui m'a sauvée de l'éducation aussi, l'art, parce que j'avais 7 de moyenne et ça allait pas du tout. Et quand j'ai vu que j'étais pris en prépa, j'ai arrêté de fumer, j'ai bossé à fond les 3 derniers mois du lycée pour me sortir de là. Et donc, c'est un peu l'art qui m'a sauvé tout ça. Et puis, et c'est en prépa où là, j'ai commencé à avoir un travail politique. Parce que je faisais déjà des manifestations quand j'étais au lycée, mais c'était mes premières, on va dire, quand c'était la réforme du travail, c'était en 2017. Et j'ai aussi des parents politisés, donc je pense ça aide. Et en fait, c'est quand on a commencé à être en prépa que j'ai vu que l'art, c'était pas juste montrer qu'on savait faire quelque chose, mais qu'il pouvait y avoir un message derrière. Et que du coup, j'ai commencé à le mettre un peu. Au début, j'assumais pas trop. Et puis maintenant, c'est ma force et c'est comme ça qu'on me reconnaît aussi, quoi.
Et t'as dit que t'avais fait les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, c'est comme une institution, en vrai, dans le monde de l'art. Comment est-ce que t'as réussi à jongler entre message politique et Beaux-Arts ?
Justement, en fait, je pense que dans l'art contemporain, dans les institutions, c'est pas très bien vu l'art politique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'au début, j'ai mis du temps à vraiment l'assumer. Et que c'est ma meilleure pote qui me disait, mais arrête, c'est de l'art politique. Enfin, qui me le disait, quoi. Mais sinon, moi, j'avais du mal à le dire au début. Puis vraiment, après, je l'ai assumé quand j'ai vu que, justement, ça faisait aussi réagir, questionner. Enfin, c'est aussi, je pense, le but dans l'art. Et du coup, après, quand on est aux Beaux-Arts, c'est un peu tout le temps de jongler entre un équilibre pour arriver à faire quand même ses études sans se faire virer. et en même temps, à casser les codes aussi. Et donc, je suis rentrée dans le... Enfin, je faisais des choses militantes aussi dans l'école. Et puis, au début, c'était un peu compliqué parce que du coup, on nous catégorise directement comme la personne militante, féministe ou je sais pas quoi. Et au final, après, il y a eu le syndicat qui a été créé à l'école. Et dès qu'on est devenu un collectif, tout a changé parce que ça n'a rien à voir quoi, quand on est désigné seul.
La force du collectif. Quoi.
Exactement. Voilà.
Et tu parlais aussi, Robert Framboise, toi, que tu étais avec d'autres colleuses et d'autres colleurs de rue. Et du coup, tu as aussi cette notion de... Je rebondis sur le collectif. Où est-ce situe la force, en fait, dans le collectif ? Qu'est-ce que c'est que ce truc génial du collectif ?
Après, la force du collectif aussi, quand tu colles dans la rue, c'est si tu te fais attraper, tu te sens quand même mieux quand t'es pas tout seul. Voilà, il y a quand même ça, parce que là, moi, je le fais des fois toute seule. Je me balade avec mon petit pot de colle, mais c'est pas évident forcément de savoir où aller. Quand on est plusieurs, on arrive plus à tenter des choses. Et aussi, juste, ça m'a fait penser ce que tu disais, Anatole. J'ai fait récemment un petit livret de coloriage de manifestation. Je t'en enverrai un si tu veux, Anatole.
Ça m'intéresse. Moi, j'ai fait partie du collectif des coloreuses féministes à Montpellier en 2020, au tout début à la création. Et j'ai été jusqu'à la fin, un peu. Ça s'est terminé, je pense, il y a 2-3 ans. Mais du coup, j'ai passé plusieurs années aussi de ma vie à coller dans la rue en collectif. Et même avant, je collais aussi, moi, mes dessins quand j'en avais en trop ou des impressions un peu ratées, je sais pas quoi. À chaque fois en soirée, je prenais une bouteille avec de la colle et mon espèce de gros pinceau. Et quand j'entrais de soirée à 3 heures, je collais dans la rue. Donc je connais ce genre de truc, j'adore.
Et ça rapporte quoi au message de pouvoir le coller dans la rue ?
C'est quand même vu. Moi, je trouve ça intéressant. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient pas forcément, n'adhéreraient pas forcément au message. Mais comme je mets des trucs très mignons avec, vraiment, c'est super kawaii avec un message bien choc, ça passe beaucoup mieux.
Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple?
Par exemple, nickel patriarcat, mais avec des petites matrioshkas trop choupinettes.
On en avait encore un autre.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai beaucoup fait décliner le vive la différence. Ouais. J'aime bien le concept. Alors, j'ai fait avec des personnages de dessins animés, des insectes, des dinosaures, des pâtes, des pastas. Voilà, après aussi j'aime bien les détournements, là j'aime pas trop la chasse, donc j'avais fait un détournement d'un paquet de Marlboro, mais c'est mal bourré, avec la même police et tout, et des petites cartouches à la place des cigarettes, c'est moins mignon.
C'est graphique.
C'est graphique, exactement.
C'est graphique. Trop bien. Et est-ce que ça t'évoque quelque chose, Anatole, de ton côté?
Oui, bien sûr.
Le mignon. Enfin, je sais pas, est-ce que toi, tu utilises des subterfuges comme ça ou...
Oui, je pense que c'est aussi un côté comme ça dans l'art, où en tout cas que j'essaie, qu'il y a un côté quand même esthétique qui donne envie de regarder et de s'approcher de plus près. Et moi, c'est un peu pareil. Souvent, c'est un peu déguisé ou caché. Où on se dit « Ah, c'est intéressant, c'est beau » ou je sais pas quoi. Et puis en fait, en se rapprochant, on se rend compte que ça parle de quelque chose d'horrible, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi le superfuge de l'art d'arriver à séduire tout en faisant parler de choses plus difficiles que sinon. Si on met directement la violence comme ça, en fait, on a un réflexe de notre cerveau de tout de suite partir et pas y faire face, quoi. Alors que quand elle est mise différemment, là ça nous questionne plus.
Après, je trouve que ça questionne aussi du coup notre rapport à la violence, surtout en tant que minorité. Moi j'aime bien par exemple tout ce qui est le cinéma body horror, tu sais, le trash, truc où en fait ça va mettre en scène des trucs violents. Et en fait, c'est pas forcément pour toutes les oreilles ou pour tout le monde, mais ça va faire vachement de bien parce que ça va exorciser un truc et ça va faire passer un message. Et je sais pas, moi, ça me soulage, quoi.
Ça te libère.
Ouais, ça me libère d'un poids. Je me dis, ok, je suis pas la seule à vivre ça d'une manière hyper violente, en fait. Même si je suis très d'accord avec vous, c'est hyper important d'arriver à toucher tout le monde. Et j'adore.
Mais c'est la différence entre l'intelligent et l'intelligible. Tu sais, c'est que, par exemple. Même si c'est du trash, ce que tu mentionnes, tel cinéma et tout, hyper violent, frontal, mais le fait que ce soit choisi de telle manière, assumé, etc., en fait, ça fait partie de l'intelligible et c'est comme ça qu'on peut le recevoir parce qu'on sait qu'il y a cette forme-là, elle est voulue, etc. C'est pas comme si c'était un truc intelligent, mais qu'on sait pas comment le donner au spectateur et du coup, ça fait un truc un peu dérangeant, mais pas tellement constructif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, très bien.
Et du coup, c'est intéressant parce que qu'on passe par une forme jolie et en fait, quand tu creuses, là, il y a en profondeur, il y a des trucs un peu trashouille ou cracra, un peu plus énervé, machin, ou que tu mettes de l'énervé direct, mais de façon choisie. En fait... c'est un autre chemin, biais, quoi.
Enfin, moi, je me censure quand même parfois parce que je colle souvent à côté d'une école primaire. Donc là, j'ai fait par exemple les animaux. Quand on parle des animaux, on parle toujours du mâle. Donc j'ai fait toutes les femelles animaux avec écrit à chaque fois non féminin. Parce que ça, là, je me suis dit que c'était quand même mignonnet à côté d'une école.
Carrément.
Et j'ai fait, bon, ça je ne l'ai pas mis trop près de l'école quand même, une déclinaison de fruits vulves, parce que la vulve, je trouve qu'on ne la voit pas assez dans l'espace public, autant il y a des zizi dessinés un peu de partout. Vive à la vulva.
Vive à la vulva. Mais c'est bien, du coup, ce n'est pas vraiment de la censure, c'est que tu t'es adapté aussi
au... Oui, je m'adapte quand même à l'environnement. On va pas les traumatiser des petits enfants.
T'as mis toute ta pédagogie en place pour que le message y passe de façon...
Voilà.
C'est important, cette manière de faire passer le message, quoi.
Et comment tu choisis les emplacements où tu vas coller ?
Avant, je collais un peu n'importe où, mais quand j'ai passé, une heure sur un dessin au Posca, parce que je colle des trucs que j'ai fait à la main, maintenant, je vais dans des endroits où je sais que ça peut potentiellement rester, parce que quand il y a un connard, je peux le dire, ou marqueur qui passe derrière et qui me grabouille tout, c'est un peu décourageant.
Ouais.
Donc, de temps en temps, maintenant, je fais des trucs aussi avec l'ordinateur, comme ça, je peux les réimprimer. Je n'ai pas travaillé dans le vent, pour rien.
Carrément. Et toi, Anatole, tes œuvres, elles sont où? Elles sont destinées parfois à l'espace public, la rue, etc. Et parfois, c'est quoi? C'est des structures? C'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement? En ce moment, par exemple. Ou n'importe, raconte.
Donc j'ai des choses, oui, dans l'espace public, par exemple, je fais des fresques. Et j'ai une fresque, par exemple, qu'on peut voir aux Altropismes, qui est dans la très grande salle, et qui est un portrait de 5 femmes ouïghours qui sont sorties des camps en Chine, dans la zone colonisée, du coup, du Turkestan oriental. Et donc voilà, et là c'était pareil, j'ai dû m'adapter aussi au public parce que moi je fais plutôt des trucs un peu trash et tout ça, et là c'était pour un lieu de fête quand même où il y a aussi beaucoup d'enfants. Donc j'ai choisi plutôt de représenter ces femmes qui sont plutôt avec des portraits fiers et qui sont combattantes, quoi, et pas vraiment l'horreur qui se passe là-bas. Que par contre, j'avais au Quai du Verdençon, j'avais fait des fresques sur un peu plus les horreurs des camps de là-bas. Et après, sinon, moi, je participe à des expositions, mais c'est pour ça que c'est important pour moi de faire qu'il y ait de l'art qui soit dans la rue, accessible à tout le monde, parce que je sais qu'il n'y aura pas tout le monde, et c'est pas la même partie de la population qui va aussi dans des expositions. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi les deux. Et aussi, je suis tatoueuse à côté. Et donc, pour moi, la peau, c'est aussi une autre manière d'exprimer l'art et d'avoir de l'art un peu partout, quoi, que ce soit sur les murs, sur les dessins, sur la peau. Et là, en ce moment, par exemple, je pars en résidence artistique dans la en forêt amazonienne du Brésil.
Ah, wow.
Ouais.
je pars dans la Creuse, on va trouver une maison pour faire une résidence d'une semaine, c'est genre wouhou.
Et là, je pars samedi, là, enfin, dans quelques jours. Et en fait, on sera avec un peuple autochtone qui s'appelle les Nokekoi, et on va travailler avec elle et eux, qui eux aussi veulent se considèrent aussi comme artistes, et du coup qu'on fasse une expo un peu en collectif entre des personnes d'autres origines et aussi des personnes autochtones qui voudraient montrer leur art un peu au monde, et aussi faire parler de leur situation, qui sont aussi dans des situations un peu compliquées, amenées à disparaître. Mais sinon, si je peux donner un exemple d'une œuvre que j'ai faite pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Comme je disais, je travaille sur les matières qui restent, et j'ai fait beaucoup de travail sur la police aussi, justement, tout un projet là-dessus. Et où du coup, j'ai commencé pendant les Gilets jaunes, donc en 2019, où j'allais ramasser dans la rue, dans les manifestations, tout ce qui était jeté. Et donc, il y avait les gaz lacrymogènes des CRS et aussi les tracts des manifestants. Et en fait, avec les tracts des manifestants, j'ai broyé, j'ai refait du nouveau papier. Donc c'est avec les revendications des manifestants. Et en fait, avec les gaz lacrymogènes où il y a les palais dedans, j'ai pris la poudre et j'ai dessiné dessus sur ces nouveaux papiers. Et donc, quand on voit, on a l'impression que c'est un papier fabriqué. Mais donc, c'est de la poudre, ça fait comme un peu du fusain. Donc, c'est hyper facile, en fait, à dessiner. J'ai dessiné avec mes doigts. Et donc, on se dit, ah, un dessin au fusain et tout ça. Et on se rapproche et on voit que c'est quand même toxique, ça pue et tout ça. Et que, en fait, ça parle de violence policière, quoi.
Et ça a permis, cette œuvre-là, elle t'a permis de te réapproprier quelque chose, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de faire ?
Moi, j'ai l'impression de vivre aussi mes œuvres, et donc c'était un travail qui était assez compliqué parce que j'ai fait beaucoup de manifestations où je me suis mis vachement en danger en récupérant les bombes lacrymogènes de la police. Et donc, forcément, ça m'a mis en danger. Je me suis pris beaucoup de gaz et des fois, j'étais en première ligne et tout ça. Mais j'ai vécu le truc. Et puis même après, pour récupérer toute la poudre, c'est hyper toxique. Et donc, j'ai vraiment vécu le truc. Mais pareil, moi, ça me permet d'extérioriser aussi toute la violence que j'ai pu voir. Et voilà. Et à chaque fois, je faisais une feuille par manifestation. Et donc, avec à chaque fois un nouveau truc... qui était dessinée. Donc une fois, c'était toute la par rapport à une photo que j'avais prise, toute la fumée de la manifestation. Après, c'était j'avais fait en tampon les palais, et en fait, quand on fait des tampons des palais, ça fait un smiley. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un peu la réponse de la police aux revendications des manifestants. Et donc voilà, à chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ça me permet vachement d'extérioriser tout ça qui est en moi.
Ouais. Voilà. C'est un peu le but de l'art, finalement, oui. Aussi.
C'est carrément. Génial.
Et moi, j'ai une question. L'actualité, comment est-ce qu'elle vous influence ?
Alors moi j'ai fait un Trump cochon, McBacon great again. Mais ça me traumatise tellement là, je me dis qu'il faut que je fasse un truc sur l'ICE. Mais en fait là en ce moment l'actualité est tellement affreuse de partout que en fait ça m'a un peu coupé les pattes. Ouais.
Ouais.
Et justement, comment, du coup, il te faut un temps de digestion. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un sujet qui est hyper violent, hyper dur, etc., et que tu vas finalement en faire quelque chose que tu vas coller dans l'espace public aux yeux de tous. Qu'est-ce qui se passe entre ce que tu reçois comme violence de l'information et de la réalité du monde et l'acte artistique de créer, de coller, en fait il y a un process, tu laisses digérer.
Parfois j'arrive vraiment, je fais le dessin, je vais le coller le soir même ou souvent après l'apéro comme disait Anatole tout à l'heure, et là vraiment il faut que je digère là. Je trouve que tout est vraiment trop horrible. Après moi je fais des trucs plus légers aussi, par exemple une fois après un date Tinder absolument atroce, je suis allée coller un petit message dans la rue, va te frotter le bout à la térébenthine. Voilà, c'était une petite
c'est
dédicace.
C'est poétique. En plus, c'est vraiment poétique. J'adore la térébenthine. On aime les blagues aujourd'hui. Est-ce que ça te parle, toi, ce process de, des fois, tu as des temps de digestion avec des trucs qui sont tellement trash que, ou alors c'est action-réaction
Je pense que ça dépend, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Palestine, justement, toutes ces dernières années, depuis 2 ans. Et j'ai été au Caire justement pour la marche To Gaza. On devait marcher dans le désert jusqu'à la frontière. Bon, on s'est fait arrêter par les Égyptiens, mais en tout cas, j'y étais et j'ai travaillé là-dessus. Et même, je suis dans le collectif aussi pour les flottis. Et donc, je leur ai fait des animations vidéo, des dessins, du montage vidéo aussi pour toute la com et tout ça. Donc forcément, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Mais je pense qu'aussi, je suis beaucoup habituée à la violence par rapport à plein de autres personnes. Et que du coup, des fois, j'ai du mal à me rendre compte que c'est violent, vu que je travaille sur la violence au quotidien. Et que même sur mon téléphone ou dans mes affaires, j'ai plein de photos d'animaux morts, de massacres, enfin, que des trucs horribles. Mais en fait, je me suis habituée à ça parce que finalement, comme je travaille là-dessus... Et c'est différent, il y a quand même une distance que je mets. Et au final, quand pareil, je rends le travail est fini, je pense qu'il y a toute une émotion qui m'a parcouru tout le long, qui est là-dedans à la fin, quoi. Et du coup, je vois ce que tu veux dire. En ce moment, l'actualité, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment du mal, J'ai plutôt tendance à pas vouloir la voir, mais on la voit quand même dans tous les cas. Et pareil, j'aimerais bien faire un truc sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Mais voilà, je suis contente de partir justement en Amazonie brésilienne, parce que je pense que j'ai besoin d'être aussi sur le terrain. Parce que quand on est trop derrière, pour moi en tout cas, derrière l'écran, à voir l'actualité qui passe, et on se sent vraiment désemparé. Alors que dès qu'on est en collectif et qu'on est sur place, sur le terrain, c'est là qu'on voit le pouvoir d'action qu'on a, et que d'un coup, un peu le fait d'être, de ne pas pouvoir agir, et d'un coup, on se sent avec une grande force collective et tout ça. Voilà.
Ça donne de l'espoir aussi.
Ouais.
Est-ce que c'est important pour toi de conjuguer activisme et art ?
Oui, sur ma bio Instagram, j'ai marqué « artiviste ».
Ah.
Et justement, c'est un terme qui mélange artiste et activiste et qui est de base un mouvement artistique, et que j'avais trouvé ça génial, ce terme-là. Et du coup, je me définis aussi comme ça. Pour moi, c'est important parce que comme j'ai de l'art politique, je pourrais pas... je connais par exemple des artistes qu'on a vu quand on était en cours, qui font de l'art politique, mais qui sont pas du tout politisés, ou du coup, des fois, c'est un peu de l'appropriation, ou c'est de... ou c'est capitaliser sur des causes qui en fait qui les comprennent pas forcément ou qui ils disent critiquer mais en fait ils font partie du problème. Donc il y a beaucoup d'artistes comme ça très connus et donc pour moi c'est important d'à côté faire des choses et puis aussi de le montrer dans l'art que c'est deux moyens d'action mais qui vont aussi ensemble quoi.
Carrément, merci. Robert Framboise, juste avant d'aller malheureusement vers la fin de cette émission, oui. T'as dit un truc au tout début et j'aimerais bien qu'on en discute. Si tu veux bien, t'as parlé du syndrome de l'imposteuse, comment on dit, impostrice.
Bah, ouais. Tu vois, par rapport à Anatole, je me sens beaucoup moins légitime d'être là.
Il faut pas.
Non, mais je sais, mais
c'est dur.
Parce que moi, je fais ça un peu comme un hobby. C'est vraiment je travaille à côté et de temps en temps je dessine et je vais coller dans la rue. C'est pour ça que je me sens pas forcément puis je m'inspire de pas mal de trucs donc je me sens pas forcément artiste à proprement parler.
Ok. Voilà. Mais tu colles quand même dans la rue et avec des dessins et des messages hyper forts et qui servent à faire avancer le monde.
Oui, tout à fait, mais je sais pas, c'est un...
Mais je comprends
ce travail
truc
sur moi.
Ouais, c'est...
C'est ça qui fait ta grande force, c'est que même si t'as un syndrome très fort, t'arrives quand même
à le faire.
À rentrer en mouvement, quoi.
Oui. Ouais, exactement.
Et ça, c'est fort, et ça, tu peux t'applaudir.
Merci. Ouais, c'est clair. Et ouais, ce syndrome-là, il est cruel, et même quand des fois ça va mieux, après des fois il redébarque. Enfin, je veux dire, je connais ce truc. Ça met parfois des années à dire je suis machin. Enfin, je fais ça. Enfin, c'est vraiment particulier quoi. Puis c'est un monde qui est un peu à part parfois.
Ouais, je suis d'accord. Bah, moi aussi j'ai un peu du mal. Là, je dis que je suis artiste, mais d'habitude quand on me pose la question dans la rue, enfin dans des rencontres comme ça, je dis j'essaye d'être artiste. Mmh. Et avant, je disais je fais des études d'art. Et donc je comprends ce truc-là, mais pour moi, il y a justement un côté hyper élitiste dans l'art qu'il faut casser et que en fait pour moi tout le monde a une âme d'artiste et peut l'être. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou d'avoir de certification ou je sais pas quoi. Tant qu'on fait quelque chose de créatif, en fait, c'est de l'art et on est artiste, quoi.
Ouais.
C'est beau, Anatole.
Et puis après, on se définit aussi comme on a envie de se définir. Tu peux même t'inventer un mot qui t'irait mieux que tout ça.
C'est un truc que je cherche.
Ouais. Mais tu vois... Mais ouais, c'est intéressant. Ça parle de notre regard sur nous-mêmes, nos positionnements...
Et en plus, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup d'hommes, je trouve, qu'on a reçus dans cette émission qui disent qu'ils ont un syndrome de l'imposteur. Il y en a moins.
Je pense que c'est assez féminin. J'ai encore envie d'accuser le patriarcat.
Allez, vas-y.
Tiens donc.
Tu peux leur remettre un petit revers si tu veux avant la fin.
Non, mais c'est vrai que les hommes que je connais qui collent, je ne pense pas qu'ils se posent la question. Mais bon.
Eh ben c'est très bien qu'on soulève ce sujet et c'est très bien qu'on soit attentive pour observer et en parler même en off, enfin je veux dire pas forcément dans l'émission pour lancer débat ou quoi, mais pour commencer à
ça, se réapproprier notre art aussi, c'est
ouais.
Ce truc là quoi.
Ouais, avoir un œil là-dessus et tout, c'est vrai. Je réfléchis dans les émissions de l'année dernière, du coup c'est hyper intéressant. Merci pour ça. Tu vois, ton syndrome de l'imposteuse est très bienvenu et gloire à lui.
Merci.
Allez, on va glisser tout doucement vers la fin. Except si vous voulez ajouter quelque chose, un truc super important, c'est le moment. Sinon, vous allez ajouter un mot important. Un mot important, c'est le mot de la fin. Et si vous deviez donner un seul mot pour définir votre rapport à la création, quel serait ce mot ?
Bah moi, je dirais artivisme, du coup.
Artivisme pour Anatole.
Génial.
Moi, je vais faire un petit mignon trash.
Mignon trash ?
Voilà, un petit oxymore.
Trop bien, mignon trash et artivisme. Merci beaucoup, Robert Framboise et Anatole.
Merci à toi.
Merci.
Et merci à Alice Rollet à la réalisation.
Merci.
Et à bientôt sur les chemins de la création. Sur les chemins de la création.
une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.